Chers frères et sœurs, chers amis, tout à la joie des baptêmes qui vont être célébrés pendant ce culte de Maïlis et Antonin Ménadier, nous voulons dire à chacune et chacun en cette heure, qui que tu sois, frère et passant, paix sur toi. Ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille, militante et blessée, battue mais invincible, tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Nous voulons ce matin et ici nous en faire l'écho en disant à chacune et chacun « La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. » Invoquons l'Éternel notre Dieu. Éternel, nous aspirons à la sérénité. Nous avons besoin de quitter nos soucis et d'être libérés de nos tensions, de recevoir la paix que tu apportes à nos vies. Éternel, nous venons nous reposer en toi, en ta parole, sainte, crédible, fidèle, et ta parole apaisera notre soif de paix. Chers frères et sœurs, je vous invite à chanter le psaume 42 du recueil Le Psautier français, la première, la deuxième et la troisième strophe du cantique numéro 42.
Chassant le frère.
Heureux es-tu si tu fermes ta porte à la violence et à l'instinct de dominer tes semblables. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur à la force de la douceur et de la maîtrise de soi. Et tu auras la joie de voir la terre venir à toi. Heureux es-tu si tu ne crains pas de vibrer avec ton prochain, affronté à la douleur, à la solitude ou à la misère. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur aux larmes de la compassion et aux gestes qui relèvent. Et toi aussi, tu seras consolé. Amen. Ô Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non pas seulement des manquements ou des pensées furtives, des prières secrètes et des élans momentanés, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit apaisée par toi. J'ai besoin de toi et de paix. Je ne me méprise pas, je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Éternel, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image, qu'il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon. Pour donner un visage au royaume de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, je crois que Dieu désire la vie, notre vie, et la donne sans mesure. Rendons grâces à Dieu pour son don ineffable. Amen. je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour, selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Jésus est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen.
Vous pouvez. Alors c'est un grand honneur et une joie pour nous tous, pour l'oratoire, d'accueillir donc deux jeunes, Maëlys et Antonin Ménadier, qui vont être baptisés. Alors c'est vrai que nous avons l'habitude des baptêmes d'adultes ici dans l'oratoire, donc c'est plutôt des personnes qui ont une trentaine d'années en moyenne qui se lèvent et qui demandent le baptême. Et effectivement, c'est pas évident, ça demande du courage et ça demande de l'ouverture, donc bravo Antonin, Maëlys, d'avoir ce courage donc et cette ouverture à votre âge. Alors c'est vrai que ça demande du courage parce que se lever devant tout le monde et puis au milieu de l'assemblée qui vous regarde, c'est pas évident. Mais c'est vrai que ce courage, eh bien, c'est un courage qu'on peut avoir dans la vie aussi pour être soi-même et le courage d'avancer. Et puis une ouverture, c'est vrai qu'on ne voit pas Dieu. Et donc une ouverture, pour s'ouvrir à Dieu, il faut ouvrir son cœur, ouvrir son espérance. Il faut s'ouvrir aussi aux témoignages des générations passées. Donc des parents, des grands-parents, des témoignages à travers les siècles, jusqu'à la Bible, écrite il y a 1000 ans, 1500, 2000 ans, et puis toutes les cultures aussi, et s'ouvrir voilà, cette espérance que nous avons en Dieu et cette force que nous recevons de lui. Alors ensuite, être chrétien, c'est un choix personnel que l'on fait, mais aujourd'hui, Maëlys et Antonin, c'est le baptême que vous recevez. Et ce baptême, c'est le signe, en fait, plutôt du choix de Dieu de vous aimer, de vous distinguer de la masse, de vous reconnaître ainsi comme une personne précieuse, unique, avec une personnalité qui mérite vraiment d'être libérée pour que vous apportiez au monde ce que vous seul pouvez apporter. Et c'est parce qu'il vous aime ainsi, ce Dieu, créateur de l'univers, sans condition. C'est pour ça que vous serez libre, à Maïlis et Antonin, de devenir disciple du Christ ou de ne pas venir, de devenir disciple du Christ si vous en faites le choix. Dieu vous aimera de toute façon, mais il espère vraiment en vous. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, Éternel, notre Dieu, c'est notre joie et notre salut de t'adorer. C'est toi qui viens vers nous pour nous donner ta présence et tes bienfaits, tes bénédictions. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ et pour la bonne nouvelle qu'il nous a apportée. Que tu nous accompagnes pour nous soutenir chaque jour de notre vie, de sorte que nous pouvons en toutes circonstances compter sur toi pour toujours. C'est pourquoi, en toute confiance, nous te présentons Maïlis et Antonin pour qu'ils reçoivent le signe de cet amour et de cette grâce que tu nous donnes. Nous te célébrons, ô Éternel. Amen. Alors, et ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines et que dans sa fidélité, il renouvelle de génération en génération. Maïlis et Antonin, nous vous accompagnerons sur ce chemin de la foi. Avec vous, nous apprendrons à faire jaillir, grâce à Dieu, une vie nouvelle de foi, de chaleur, et puis peut-être aussi à lutter dans ce monde pour qu'il y ait plus de justice, plus de paix, plus d'espérance. Alors bienvenue à tous les deux, bienvenue à ceux qui vous accompagnent, donc vos parents, Frédéric et Pierre. Bienvenue à Muriel Potier et Pierre-Louis Seguin, la marraine et le parrain de Maïlis, à Emmanuel Ritz et à Marc Plumeau, les marraines et parrains d'Antonin. Parents, parrains et marraines, Maïlis et Antonin, par ce baptême, seront chez eux dans la communauté chrétienne. C'est-à-dire que leur place est vraiment marquée pour les recevoir. C'est leur famille spirituelle, donc au-delà, bien sûr, des frontières de l'oratoire, comme le rappelait Laurent Gagnebin. Au-delà même de l'Église protestante, dans l'Église chrétienne au sens large, c'est-à-dire cette large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu en Christ. Maïlis Antonin, aucune contrainte ne vous retiendra dans l'Église, bien sûr, mais votre place est prête donc pour que vous l'occupiez et vous pourrez choisir un jour, librement, en connaissance de cause, eh bien, de devenir disciple du Christ, si vous le désirez. En tout cas, ensemble, nous essayerons eh bien, de vous aider à vous interroger, de vous interroger sur la foi, vous interroger sur Dieu, vous interroger sur le Christ, dans la lecture de la Bible, mais aussi dans la prière, dans le débat avec vos collègues chrétiens. Donc je vous propose d'être baptisé. Donc je vous invite d'abord Maïlis, d'abord parce que c'est la plus grande, et puis c'est aussi parce que voilà, on fait honneur aux femmes. Alors je propose donc aux parents et puis son parrain et sa marraine de venir l'entourer. Si elle est là, non, je ne sais pas. Si elle n'est pas là, c'est... Ah voilà, donc bienvenue pour soutenir Maïlis. Maïlis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui Maïlis, que Dieu te bénisse et te garde. Qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne et qu'il te donne vraiment une lumière et une joie, un amour qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Alors nous apprécions infiniment donc Maïlis dans les groupes de catéchisme pour sa profondeur et sa générosité qui s'exprime de bien des façons, mais aussi en fabriquant des macarons, en les apportant pour les partager avec le groupe de catéchisme. Et fabriquer des macarons, ça prend du talent, mais un peu plus que 2 minutes, donc c'est drôlement sympa, mais c'est juste un des gestes de tout ce qu'elle apporte dans ce groupe. Alors Maïlis a choisi de lire un passage de l'Évangile pour dire finalement cette confiance dans un Dieu qui est si fidèle et généreux. Je te le tiens, si tu veux.
Donc Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. « Et moi, je vous dis... « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. »
Voilà, grand merci à toi, grand merci à vous d'accompagner Maïlis aussi. Maintenant c'est Antonin. Antonin, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Antonin, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne sur la route qui sera la tienne et qu'il te donne vraiment une force, une joie, un enthousiasme, eh bien, pour vivre et apporter tant de choses autour de toi à ceux qui seront chers à ton cœur. Alors tu as choisi de nous lire, toi, un passage donc, du livre des Actes des Apôtres qui appelle donc à la générosité à l'image de Dieu lui-même.
Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Merci beaucoup donc, pour ce verset que tu as choisi parmi une sélection donc, qui t'a été proposée donc, par les parents et puis les grands-parents peut-être aussi. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place qu'on ait quelques instants donc, de prière pour remercier Dieu pour Antonin, Maïlis et pour cette famille qui vous entoure. Ô notre Père, nous te remercions pour Maïlis et Antonin, pour leur personnalité riche à qui tu donnes par ton esprit la liberté d'aimer, de créer, d'embellir le monde. Fortifie tout particulièrement la foi de Maïlis et Antonin, leurs réflexions, leur philosophie de vie. Et donne à leurs parents et à tous ceux qui auront à prendre soin d'eux de leur donner envie de te laisser une vraie belle place dans leur vie, dans leur cœur, dans leur espérance et dans leur louange. Oui, merci, ô Éternel notre Dieu, pour tout ce que tu nous apportes jour après jour. Amen.
Recueillons-nous dans la prière. Éternel, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant ainsi dans nos existences des chemins de lumière. Nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit, qui souffle sur le monde du commencement jusqu'à la fin des temps. Ta parole nous enracine dans les profondeurs du passé. Elle lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, à leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Éternel, ouvre nos portes intérieures pour qu'à travers les paroles que nous allons entendre, passe au plus profond de nous ton souffle créateur. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite à écouter la lecture de la Bible. Nous lirons un seul passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 30b à 34, ces paroles de Jésus. Comme votre confiance en Dieu est faible, ne vous inquiétez pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à chanter dans le petit recueil bleu, louange et prière, le cantique numéro 222, la première, la deuxième et la troisième strophe de ce cantique 222. Éternel, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins quotidiens semé d'obstacles et bordé de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de nous, tu nous aimes. Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais retenir pour la prédication de ce matin cette affirmation de Jésus d'après l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 34 « À chaque jour suffit sa peine ». Ces mots se trouvent au cœur de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne qui occupe les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu et qui est introduit par les fameuses béatitudes. À chaque jour suffit sa peine. Il s'agit là du temps de Jésus, d'un dicton populaire, expression d'une sagesse populaire. On reprend souvent dans notre monde ces mots sans savoir qu'ils sont attribués à Jésus d'après les évangiles. Il en est exactement de même pour une autre maxime : nul n'est prophète dans son pays. Jésus reprend ainsi des mots de cette sagesse populaire, ainsi par exemple dans une parabole, à celui qui a, il sera donné, à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Ce qui correspond en gros à notre proverbe, on ne prête qu'aux riches. Ces dictons sont des paroles banal. Mais il est peut-être possible, avec Jésus, de les porter à une plus haute vérité. C'est ainsi qu'il fonctionne, par exemple, avec les paraboles. Ces récits commencent par des scènes quotidiennes, familières, mais au fur et à mesure que le récit se développe, on est déplacé, on est dépaysé, pour aboutir à une conclusion surprenante et inattendue. À chaque jour suffit sa peine. Il y a là un appel à une fidélité malgré tout pour n'être pas submergé par ses soucis, comme cela peut nous arriver, ses soucis d'ordre professionnel, par exemple, financier, matériel, ses soucis d'ordre affectif, familial, ou par rapport à nos amitiés et nos amours, ses soucis concernant notre santé ou celle d'un autre. J'aimerais vous lire ces quelques lignes d'une mère de famille. C'est un texte autobiographique qui découvre brutalement, avec son mari, que leur petite fille d'environ un an est handicapée mentale et physique à vie. Oui, le verdict est tombé. Un verdict, une condamnation. Condamné à vivre toute notre vie avec une enfant handicapée, très gravement atteinte. L'avenir, y en a-t-il vraiment un ? Lorsqu'on me demande « Mais comment avez-vous traversé cette épreuve ?», je réponds « Je ne sais pas ». Nous avons mis chaque jour un pied devant l'autre sans trop réfléchir. Oui, à chaque jour suffit sa peine, mais devant un tel drame, on pourrait dire aussi à chaque vie suffit sa tragédie. Il y a ainsi dans nos existences des morts, des deuils dont nous ne pourrons jamais nous relever, des morts injustes, scandaleuses, brutales, plus particulièrement la mort d'un enfant. Nous devons vivre alors en portant en nous cette blessure qui ne se refermera jamais tout à fait, mais le devrait-elle ? Permettez-moi de vous dire, sans la moindre provocation, mais en toute simplicité, ne peut-on pas affirmer aussi « À chaque jour suffit sa joie ». Savoir discerner dans notre quotidien des petits signes qui vont éclairer notre journée, une parole, un merci, une lettre, un geste, un regard, quelque chose de beau que l'on a vu dans la rue. On l'a peut-être vu 100 fois, mais la beauté, comme l'amour, est toujours nouvelle, c'est toujours la première fois. Savoir discerner cela, profiter ainsi du moment présent. Je pense à la devise latine bien connue, « Carpe diem », cueille le jour. Une amie très durement frappée dans sa vie m'écrivait cette semaine, « Les épreuves ne sont pas souhaitables, mais elles obligent à trouver du charme à certains moments de l'existence. » Alors plutôt que ce carpe diem, j'aimerais vous dire, avec ce choral de Bach que nous avons entendu dimanche dernier chanter ici même, « Que ma joie demeure ». Et puis ce sera un deuxième temps de ma prédication. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, mais ce texte, à chaque jour suffit sa peine, et son contexte immédiat que nous avons relu tout à l'heure, suscite en moi un certain malaise. Ou plutôt peut-être l'interprétation qu'on en donne, la compréhension qu'on en a, la lecture qu'on en fait gravement d'habitude. Il y a là, quelque chose d'assez scandaleux. Jésus d'ailleurs précise, ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Alors on va dire cela aux SDF, aux pauvres, aux victimes des injustices, des violences, dont la première est peut-être celle de la faim, victime des guerres, du chômage, des exils. Et puis Jésus ajoute, « Ne vous inquiétez pas du lendemain. » Mais n'est-ce pas un message diamétralement opposé à l'exemple de toute sa vie, au témoignage unanime des prophètes, à ce christianisme pratique, social, que nous avons tiré des Écritures? N'est-ce pas là quelque chose de totalement opposé au Nouveau Testament lui-même, à des pages de l'Évangile, à certains textes même de la Bible. Je pense, par exemple, à l'épître de Jacques, au chapitre 2. Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour, à quoi cela sert-il que vous leur disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim ?» C'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, les versets 15 et 16. J'aimerais reprendre cette interrogation de Jacques et vous dire « À quoi cela sert-il que vous leur disiez, comme Jésus l'affirmait, à chaque jour suffit sa peine, ne vous inquiétez pas du lendemain ?» N'y a-t-il pas là un appel à une passivité et à l'indifférence ? Et c'est comme ça, souvent, trop souvent, que l'on entend aussi ces béatitudes qui ouvrent le serment sur la montagne. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Consolés demain, après-demain, après leur mort. On est en pleine aliénation religieuse. N'est-ce pas d'ailleurs cela, cette passivité, cette résignation joyeuse peut-être, à laquelle nous invite notre passage biblique? J'aimerais vous le relire. Ces paroles de Jésus. « Comme votre confiance en Dieu est faible, ne vous inquiétez pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela, mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si je considère les titres donnés à ce fragment de l'Évangile dans nos Bibles, vous savez, comme l'a rappelé le professeur Marc Boss, le dernier dimanche de mai, ici même, dans cette chaire, que ces titres ont été ajoutés à nos Bibles. Ils ne sont pas dans l'original hébreu pour l'Ancien Testament ou grec pour le Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certaines Bibles, par fidélité, refusent ces titres qui sont là pour faciliter notre lecture. Mais je vous en donne quelques exemples. La Bible, en français courant, intitule ce passage « Avoir confiance en Dieu ». Oui, bien sûr. La version « Parole de vie »,« Dieu donne tout ce qui est nécessaire à la vie ». Oui, aux SDF et aux gens qui meurent de faim. La nouvelle Bible second, et puis la traduction œcuménique de la Bible, la version synodale, la version du centenaire, la version synodale remonte à Genève au XVIe siècle, le Nouveau Testament d'Hubert Pernaut met un titre très neutre. Mais ce texte est-il neutre? Le titre qu'ils mettent, c'est « L'inquiétude ou les soucis ». Et puis deux versions catholiques. Celle du chanoine Hostie, ne pas thésauriser, mais s'abandonner à la providence. Et la version de Jérusalem, celle de l'école biblique de Jérusalem, c'est la version la plus utilisée dans le catholicisme aujourd'hui, s'abandonner à la providence. Que font tous ces titres sans s'en rendre compte? Ils font exactement ce que j'ai fait, peut-être certaines et certains d'entre vous l'ont-ils remarqué. Quand je viens de vous relire ce passage de la Bible, ils le censurent. J'ai en effet retiré de ce passage, en vous le relisant là maintenant, le verset 33, où Jésus déclare « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». On a le même texte dans l'évangile de Luc, mais il estime cette affirmation tellement fondamentale qu'elle n'est pas perdu en quelque sorte au milieu de ce passage, mais qui la met à la fin de l'enseignement de Jésus. Comme pour nous dire, c'est là la conclusion, c'est là la pointe de cette prédication. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mais c'est un texte anti-providence. Cherchez premièrement. D'ailleurs, le mot « providence » n'est pas biblique. Si vous ouvrez une concordance, à savoir un dictionnaire, où se trouvent par ordre alphabétique tous les mots de la Bible avec le renvoi au passage des Écritures où ils sont utilisés, ben, le mot « providence » n'apparaît jamais. Il appartient à une philosophie latine, romaine, grecque peut-être, qui n'est absolument pas celle de la Bible pour les rapports entre Dieu et nous. Une providence teintée d'un certain fatalisme. Le mot providence n'est pas biblique, pas plus d'ailleurs que d'autres mots, le mot trinité ou le mot sacrement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce n'est pas s'abandonner à la providence, c'est un appel à l'action. Peut-être bien, alors, comme le dit notre texte, à l'action pour les autres d'abord et non pas pour soi. Mais il y a plus. Si vous retournez au texte grec original, il n'est pas dit « chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Il est dit, et c'est très important, « mais chercher d'abord ». Mais, parce que Jésus oppose ce qu'il vient de dire à cette affirmation décisive. Et il est infiniment regrettable que ce « mais » ne soit pas traduit dans la Bible en français courant, dans la traduction écuménique de la Bible, dans la version de Jérusalem, dans la Nouvelle Bible Second. Heureusement, du XVIe siècle avec le réformateur Castellion jusqu'au XXe avec le théologien juif Chouraki qui a traduit toute la Bible, y compris le Nouveau Testament, ce « mais » est traduit. En passant au XVIIe siècle, par la Bible de Lemaître de Sacy, au XVIIIe, par celle d'Ostorwald, au XIXe, par la version d'Arby. Alors, le vrai titre de ce passage, ce n'est pas « s'abandonner à la Providence ». Ce devrait être « chercher, premièrement, le royaume de Dieu ». Ou bien « l'essentiel ». Ou bien « l'essentiel » et le secondaire. Quand j'ai été consacré au ministère pastoral, comme on disait autrefois, il y a une cinquantaine d'années de cela, pour ma reconnaissance de ministère, j'ai envoyé, c'était la coutume, on le faisait, une lettre à des collègues, à des amis, à des proches, des parents, des fidèles, que je voulais inviter à cette cérémonie. Et dans cette lettre, je n'ai mis qu'un seul verset biblique. Il en fallait bien un. À savoir, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il m'a toujours semblé qu'un protestantisme libéral et qu'un christianisme social étaient ensemble pour les combats, pour les actions. Et que cela était beaucoup plus important que des luttes pour une unité doctrinale, dogmatique ou cultuelle. Chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est là ma troisième étape. Vous savez probablement que c'est Albert Schweitzer qui a montré, je le cite, que le royaume de Dieu occupe le centre du message de Jésus. Il a répété cela 100 fois et cela figure encore dans le dernier texte qu'il a écrit avant sa mort. Ça, c'est un texte de prédication. Il l'a fait dans la ligne d'un exégète beaucoup moins connu, Johannes Weiss, au cours de l'histoire du christianisme. Cette réalité du royaume de Dieu et la notion du royaume de Dieu ont subi des déformations, des défigurations. J'en repère au moins trois. On a voulu y voir, dans ce royaume de Dieu, une réalité personnelle identifiée à Jésus. Jésus, c'est le royaume de Dieu dans sa vie et dans sa prédication. Pas du tout. Le royaume de Dieu, avec le témoignage unanime des prophètes, mais de toute la Bible, c'est un combat pour une réalité sociale de transformation où la volonté de justice et le sens de l'humain forment un tout. D'autre part, Jésus, je dis bien Jésus, Paul, les premières générations chrétiennes ont attendu le retour du Christ, du Fils de l'homme, et avec lui l'instauration de ce royaume de Dieu d'un jour à l'autre. Paul écrit même dans sa première épître aux Thessaloniciens et la première épître aux Corinthiens que certains de ses contemporains ne mourront pas, lui peut-être aussi, sans avoir vu le retour du Christ et l'établissement de ce royaume de Dieu. Il conseille même de ne plus se marier. À quoi cela sert-il? Or, cela fait 2000 ans que l'on attend. Nous ne pouvons pas retenir, bien sûr, cette fièvre eschatologique de la fin des temps, mais nous devons retenir au moins de cela le caractère historique du royaume de Dieu. Ne pas déshistoriciser cette réalité. Albert Schweitzer écrit que ce royaume de Dieu n'est pas situé dans un inaccessible lointain. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui. L'au-delà, c'est le prochain, c'est le présent, c'est maintenant. Et c'est à partir du VIe siècle que, ne voyant pas arriver ce royaume de Dieu et le retour du Christ, on a peu à peu abandonné cette annonce du royaume de Dieu dans la théologie chrétienne, où il va tenir de moins en moins de place. Enfin, vous connaissez certainement la fameuse citation de Loisy. Alfred Loisy, c'est un théologien catholique qui publie en 1902 un petit livre qui a eu un retentissement considérable intitulé « L'Évangile et l'Église ». C'est un beau titre, ce n'est pas « L'Église et l'Évangile ». Il répond là à un ouvrage protestant d'un théologien que j'aime beaucoup, Arnac, et qui s'appelle « L'essence du christianisme ». Loisy sera d'ailleurs bientôt, mais il ne l'est pas encore, condamné et excommunié par Rome pour cause de modernisme. Mais dans ce petit livre, il écrit ceci: « On attendait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Alors nous, protestants, on lit cela en y voyant un peu une boutade, un trait d'humour, mais pas du tout. Pour Loisy, comme pour l'Église catholique romaine, cette Église catholique romaine est bel et bien là en lieu et place du royaume. On attendait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Alors, nous ne pouvons pas souscrire à une telle compréhension de l'Église. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Jésus n'est pas un maître de sérénité souriante. Il n'est pas un maître de sagesse impavide, un peu indifférente et paisible. Il ne fume pas un sage au sens où on l'entend parfois aujourd'hui en lui attribuant cela. Il ne fut même pas sage. Il fut déraisonnable. Il fut un révolté. Il guérissait ceux que plus personne n'approchait parce qu'on les trouvait impurs. Il réintégrait les exclus. Il rendait leur dignité aux petits, aux méprisés, à ceux qu'on opprime. Il dérangeait, il bousculait les conventions, l'ordre établi, les carcans religieux, il bouleversait la loi. Rappelez-vous ces mots qui résument son attitude vis-à-vis de la loi. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat, c'est-à-dire pour la loi. C'est le sabbat, c'est-à-dire la loi, qui est fait pour l'homme. Ce n'est pas seulement un bousculement, c'est un véritable basculement. Jésus associait d'autre part ses disciples, comme il nous associe à son entreprise et à ses combats. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 9, j'aime que l'apôtre Paul écrive ces mots « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Ouvrier, c'est un mot peut-être très modeste, mais avec Dieu, c'est exaltant, c'est enthousiasmant. Et Paul ne dit pas « Soyez ouvriers avec Dieu », il dit « Nous le sommes ». Il ne dit pas non plus « Soyez des héros avec Dieu », sous-entendu comme je le suis moi-même. Non, non, il ne faut pas culpabiliser quiconque avec cette notion et cette réalité du royaume de Dieu. Albert Schweitzer, je l'ai cité à plusieurs reprises, on fête cette année le 50e anniversaire de sa mort à travers des manifestations ecclésiales, mais aussi publiques. Albert Schweitzer a écrit très nettement qu'il estimait être un privilégié, lui qui avait tout sacrifié, qui avait renoncé à tout pour partir au Gabon, construire, vous le savez, cet hôpital de Lambaréné, puis le reconstruire après la guerre. Il estimait, alors qu'une carrière universitaire et d'organiste s'ouvrait devant lui, il estimait qu'il était un privilégié. Pourquoi ? Parce qu'il avait pu réaliser son rêve. Mais Albert Schweitzer savait parfaitement que l'immense multitude des gens, malgré toute leur bonne volonté, ne peut pas en faire autant. Nous sommes pris, et il faut respecter cela, dans des contraintes, dans des obligations, dans des nécessités. J'aimerais conclure cette prédication par une petite parabole que j'ai lue un jour. Je crois ne l'avoir jamais citée en chair, du moins ici. Il y a eu un orage terrible pendant la nuit et l'océan s'est déversé sur la plage, y jetant 1000 déchets, mais aussi des êtres vivants, des mollusques, des crustacés, des poissons, des coquillages. Et le matin venu, le soleil est là et il commence à brûler déjà. Et un enfant longe la plage. Et chaque fois qu'il voit un de ces êtres vivants, il le remet à l'eau. Il croise un promeneur qui se moque un peu de lui, qui sourit en lui disant « Mais à quoi cela sert-il, ce que tu fais? Tu vois bien que la plage est infinie, qu'elle est immense. Tu ne peux pas tout changer. » L'enfant prend alors une étoile de mer, la remet à l'eau, et dit au promeneur, « Non, je ne peux pas tout changer, mais pour elle, l'étoile de mer, cela change tout. » Voyez-vous, nous luttons à notre manière pour ce royaume de Dieu, mais soyons attentifs, généreusement attentifs, à ces petits gestes, à chaque jour suffit sa peine, que l'amour peut transformer en grande cause. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous invite à chanter dans le petit recueil bleu, Louange et prière, le cantique numéro 214, la première, deuxième et troisième strophe de ce cantique numéro 214.
Prenons place pour partager quelques informations après avoir remercié le professeur Laurent Gagnebin de présider ce culte aujourd'hui, accompagné à l'orgue par Aurélien Péter. Tout de suite, la réponse à la question « À chaque jour suffit-il sa joie ?» Bien sûr que non. En tous les cas, à l'oratoire, plusieurs joies s'annoncent après le culte. À 12h30, c'est l'après-midi de l'oratoire, une fois par mois. Celles et ceux qui le souhaitent partagent un repas tiré des sacs, puis vont avoir une activité culturelle. Peut-être la fête de la musique aujourd'hui donnera-t-elle quelques motifs d'inspiration. Notamment à 16h, ici même, aura lieu un concert, les prières dans les airs d'opéra. C'est un concert qui sera donné par Sylvie Bozzolo, Sylvie Junio, l'une de nos paroissiennes, Yoko Takueshi, et puis ils seront accompagnés au piano par Grégory Abramian. Donc 16h, ici même, les prières dans les airs d'opéra. Et puis à 20h, un autre concert, cette fois par un groupe plus pop, un groupe dont l'un des musiciens est également paroissien ici même, Kelly and the Kapowskis, et c'est à 20h. Ensuite, dans le reste de notre semaine, mardi à 18h, c'est la répétition pour le chœur d'enfants de l'oratoire. Mercredi à 15h30, le groupe de grec pour les personnes qui sont dans leur troisième niveau d'apprentissage du grec biblique. Et vendredi, ici même, à 12h30, une heure musicale qui nous sera offerte par Aurélien. Dimanche prochain, comme d'habitude, notre culte a lieu à 10h30. La scène y sera célébrée et prévoyez un peu de temps à l'issue du culte car un verre fraternel sera organisé dans la sacristie. C'est maintenant le moment de l'offrande. À chaque culte suffit son offrande.
Recueillons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Nous te prions pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants, pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies. Nous te prions pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous, pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de notre marche sur la terre. Et dans la communion de ton Église universelle, et avec ceux-là même qui pensent ne pas avoir d'Église, mais portés à la cité des hommes par les cloches de notre temple, nous voulons te redire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez, frères et sœurs, la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous, présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Allons en paix. Amen.